dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier. Il y a 150 ans, le 29 mai 1871, après 72 jours d'existence, les communards voyaient une tuerie sanguinaire déposer une chape de plomb sur leur espoir de révolution populaire. Nous nous retrouvons pour la troisième émission sur la Commune de Paris de 1871.
Brave et libre aussi, la femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. Louise Michel.
Ballade en l'honneur de Louise Michel, poème de Paul Verlaine, en octobre 1886.
Pierre Clamouse est né le 1er septembre 1830 à Saint-Affrique, membre de l'Internationale et communard.
À travers le personnage de Victorine Brochet et de Louise Michel, c'est à toutes les femmes de la Commune que nous voulons rendre hommage.
Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'aura rien de stable dans les institutions humaines.
Cette hachette, c'était l'arme que mon arrière-grand-père portait à la ceinture pendant la Commune.
La Commune n'est pas à copier ni à imiter, mais elle peut être une source d'inspiration pour l'avenir. Vive la Commune !
Vive la Commune !
Vive la Commune !
Où est-ce qu'elle est, Marie ?
Allez, vas-y, vive !
Marie !
Allez !
Nous accompagnons aujourd'hui des membres du collectif communard d'action spontanée qui, dans une petite ville du sud de la France, Saint-Affrique, en Aveyron, vont procéder à une déambulation célébration de la Commune de 1871. Les mains chargées de roses et de plaques de rue portant les noms de communards, ils veulent rappeler que la Commune n'est pas que sujet d'étude réservé aux historiens, mais doit surtout être une impulsion à toujours poursuivre les combats pour plus de justice, plus de liberté et de solidarité, des valeurs portées par les communards et qui gardent une actualité indéniable. De telle sorte que, comme l'écrit Michel Cordillo, l'affirmation par les mouvements sociaux d'aujourd'hui d'un lien de filiation avec la révolte du peuple parisien au printemps 1871 reste une constante aussi remarquable que frappante.
Une fois n'est pas coutume. Une place prédominante sera donnée aux chansons, en évitant l'écueil de réentendre les magnifiques chants de la Commune enregistrés pour le centenaire en 1971 sur le disque « La Commune en chantant » réalisé à l'initiative de Georges Coulonge, Mouloudji et Francesca Soliville. Les chansons qui parsèment cette émission sont interprétées par de jeunes auteurs peu ou pas connus et par des artistes très peu médiatisés. Une chorale sera aussi entendue, car les chants de la Commune accompagnent encore souvent, preuve que la Commune est toujours vivante, les luttes et les manifestations.
Nous n'oublions pas les anciens, comme Marc Augeret, Francesca Soliville, les quatre barbus, bien entendu, qui feront une brève apparition en fin d'émission. Dans les deux précédentes, ont été entendus aussi des interprètes incontournables comme Serge Ujiroyo, Mouloudji et Jean-Roger Cossimon. Toutes nos excuses pour ceux que nous oublions comme Dominique Grange, Claude Marty, les groupes d'Apamix et La Talvero, ainsi que tant d'autres.
Nous commençons par une rareté. L'interprétation par Georges Brassens d'un texte écrit par Louis Marchand et mis en musique par Aristide Bruand. Il porte pour titre La Commune.
La chanson de la Commune aussi était chouette. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. Le fracas du canon s'entend à l'horizon. C'est la Commune qu'on vient de proclamer. Chacun, chacune, pour elle veut s'armer. Debout, Paris tressaille debout. C'est la bataille debout. Paris tressaille debout. Mais la défaite est proche. Le jour fait fatal approche, mais la défaite est proche. Le jour fatal approche, un cœur succombe, fusillé par rangée devant leur tombe, jurant de les venger. Debout, pas de lutte brève, debout, guerre sans trêve, debout, pour notre rêve, debout.
Il y a 150 ans, la Commune de Paris de 1871, sur Dissonance.
Jules Ferry, à côté de l'école,
là-bas.
Qui est devenue la rue
Louise-Michel. Après, la rue du Général Castelnau.
Castelnau, qui est devenue Pierre Clamouze.
Une quinzaine de membres de ce collectif informel se regroupent dans le jardin public. Il y a là des syndicalistes, des libertaires, des humanistes qui, armés d'un escabeau, d'un rouleau de scotch à double face et d'un magnifique bouquet de roses, se préparent à cette renomination des noms de rue. À chaque emplacement, un court texte est lu par ceux qui le souhaitent, qui explique pourquoi les plaques de Jules Ferry et du général de Castelnau sont recouvertes et présente les grandes lignes de l'avis du communard mis à l'honneur. Les femmes seront évoquées par les plaques de Louise Michel et de Victorine Brochet, et deux ouvriers seront aussi mis à l'honneur. Il s'agit d'Eugène Varlin et de Pierre Clamouze, un Saint-Africain. C'est le moment d'y aller. Direction la rue Jules Ferry pour y apposer la plaque au nom de Louise Michel.
Et le temps qu'ils s'y rendent, nous écoutons Michel Bernard interpréter une de ses chansons en l'honneur de Louise Michel. Elle y évoque le cimetière de Levallois-Perret où la communarde repose.
Au cimetière de Levallois, drôle de belle au bois, tu dors depuis 100 ans, c'est fou, comme le temps creuse son trou. Au cimetière de Levallois, carré 20, te voilà. Un monument te fait de l'ombre, c'est pour fêter les hécatombes. Du chemin des dames au Djebel, la mort entasse sa gabelle. En 100 ans, que d'idées nouvelles, le massacre à l'industriel. Une race part en fumée et le livre rouge est fermé. Au cimetière de Levallois, drôle de belle au bois, tu dors depuis 100 ans, c'est fou, comme le temps creuse son trou. Au cimetière de Levallois, t'as des voisins de choix. Madame Soleil, Léon Zitrone, le bonheur en casaque jaune, le rêve en paillettes dorées, tu vois qu'on a fait des progrès. Ravel avec ses sortilèges, Eiffel et sa tour sous la neige, Théophile, ton bel ami, mort aux cerises, sans un cri. Au cimetière de Levallois, drôle de belle au bois, tu dors depuis 100 ans, c'est fou, comme le temps creuse son trou. Du cimetière de Levallois, devine ce qu'on voit. Des tours aux 100 000 fenêtres qui lancent au ciel leurs grandes lettres. Apple, Hitachi, Paribas, le monde en mêle ses cabas. Une voie de chemin de fer longe le mur et s'en va faire un petit tour chez les onards où sont passés les communards. Au cimetière de Levallois, drôle de belle au bois, tu dors depuis 100 ans, c'est fou, comme le temps creuse son trou. Au cimetière de Levallois, un oiseau t'aperçoit. Le voilà posé sur ta tête, ses ailes te font une aigrette noire, comme un drapeau têtu, il sautille sur ta statue. Puis s'envole à travers la grille, qu'à tous les vents il éparpille, cet air qui ne veut pas mourir, où l'on refuse d'obéir. Au cimetière de Levallois.
En 1870, Jules Ferry est membre du gouvernement d'Adolphe Thiers. Dès le premier jour de l'insurrection de la Commune de Paris, adversaire résolu des fédérés, il fuit la ville alors qu'il occupait la fonction de maire de Paris. Avec Thiers, Ce fut un des partisans de la répression de la Semaine sanglante, responsable de la mort de 15 à 20 000 citoyens français, 40 000 arrestations et près de 4 000 déportations en Nouvelle-Calédonie. Louise Michel rejoint Paris en 1856 pour y exercer son métier d'institutrice. Elle s'investit aussitôt au sein du comité de vigilance du 18e arrondissement. Dès le 18 mars 1871, elle se trouve sur la butte, habillée en garde nationale, pour défendre les canons parisiens. On la voit intervenir dans les clubs, participer aux ambulances, animer l'Union des femmes et se battre au sein de la garde nationale. Combattant sur les barricades pendant la Semaine sanglante, le 24 mai, elle se rend aux Versaillais qui ont arrêté sa mère. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle y exerce son métier d'enseignante et soutient, contrairement à la majorité des communards exilés, les révoltes kanaks contre la colonisation. Amnistiée, elle revient en France le 9 novembre 1880. Elle met par écrit ses souvenirs de la commune, publie des livres de poésie et quelques romans, s'investit dans la promotion de l'anarchisme, donne de multiples conférences et subit de fréquentes arrestations pour ses opinions politiques. Elle meurt le 9 janvier 1905 à Marseille, au lendemain d'une de ses conférences publiques. Louise Michel sera restée fidèle à ses idées jusqu'au terme de sa vie. Je voulais rajouter une petite phrase là que j'avais trouvée parlante. Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre aussi, la femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. Louise Michel.
Michel Bernard interprète un autre de ses titres, Sous les Niaoulis, nous transportant en Nouvelle-Calédonie où 3859 communards, dont Louise Michel, ont été déportés.
Sous les Niaoulis, Louise apprenait à lire aux petits enfants de la Kanaki. Ouais, sous les Niaoulis. Quoi rêvait-elle, loin des barricades et loin des fusils, si loin du pays? Sauvez dans vos conques, tapez le bambou, courez le bruit de la mitraille. Liberté chérie, liberté debout, honte aux assassins de Versailles. Liberté chérie, liberté debout, honte aux assassins de Versailles. Sont égaux en lettres jolies sur le grand tableau. Louise avait écrit pour tous mes amis là-bas qu'on tue, qu'on enchaîne. Enfants, écrivez, l'esclavage est mort, il faut qu'on l'oublie. Le bambou, tout ça c'est des mots, des bêtises. Et sur les rochers, au fond de l'Ifou, s'écrase le temps des cerises. Et sur les rochers, au fond de l'Ifou, s'écrase le temps des cerises.
Soufflez dans vos conques, tapez le bambou, enfin réveillez la rengaine.
Liberté chérie, liberté debout, Louise, il faudrait qu'on s'en souvienne. Liberté chérie, liberté debout, Louise, il faudrait qu'on s'en souvienne.
Héroe Cacuya, héroe Cacuya, héroe Cacuya, héroe Cacuya.
On continue sur Louise Michel, mais avec un petit aparté, parce que Louise Michel était amie avec un des seuls poètes qui a soutenu la commune, donc Verlaine, bien sûr, et puis l'autre, c'est Rimbaud. Voilà, alors j'avais pensé à dire un texte de Rimbaud, puisqu'il en a écrit plusieurs autour de la commune, puis je me suis dit non, parce que c'est très très long ces textes, ils sont pas évidents, et en plus, bon... Entre Verlaine et Rimbaud, Rimbaud est resté une petite semaine pendant le temps de la commune. On ne sait pas vraiment s'il a participé ou pas. Il avait plein de potes qui étaient, c'est pour ça qu'il était venu. Par contre, Verlaine, lui, a vraiment participé. Il était à l'hôtel de ville. Et quand la commune s'est terminée, il s'est caché pendant une semaine pour éviter d'être fusillé. Et ça lui a coûté aussi son boulot après, etc. C'était très difficile pour lui. Donc, un petit clin d'œil. En plus, Louise Michel était au mariage de Verlaine. Donc, c'était vraiment des potes. Bon. Balade en l'honneur de Louise Michel, poème de Paul Verlaine, en octobre 1886. Madame et Pauline Roland, Charlotte, Terouagne, Lucille, presque Jeanne d'Arc, étoilant le front de la foule imbécile, nom des cieux de moins que rien, France bourgeoise au dos facile, Louise Michel est très bien. Elle aime le pauvre, âpre et franc ou timide, elle est faucille dans le blé mûr pour le pain blanc du pauvre et la Sainte Cécile. Et la muse rauque et gracile du pauvre et son ange gardien. À ce simple, à cet indocile, Louise Michel est très bien. Gouvernement de Maltalan, Mégatherium ou Bastille, soldat brun, robin insolent, ou quelques compromis fragiles, géant debout au pied d'argile, tout cela son courroux chrétien l'écrase d'un mépris agile. Louise Michel est très bien. Envoie. Citoyenne, votre évangile, on meurt pour cent. C'est l'honneur, et bien loin des taxiles et des basiles, Louise Michel est très bien.
Il y a 150 ans, la commune de Paris de 1871 sur Dissonance.
Alors, avec le bruit là, je parle de... Alors, de Castelnau. Lors de la semaine sanglante de fin mai 1871, le jeune capitaine de Castelnau, à la tête de son bataillon du 36e régiment d'infanterie, participe à la répression contre les communards et à leur arrestation. Voici quelques lignes tirées du livre du général Yves Legras sur le général de Castelnau. Le 36e bataillon de marche nettoya la gare de l'Est et la gare du Nord, avec les autres bataillons de la division Montaudon. Ils nettoyèrent aussi les quartiers de Belleville et de Ménilmontant. Ayant appris que son ami, le révérend père Ducoudray, avait été fusillé par les fédérés en tant qu'otage, cette exécution, atteignant personnellement de Castelnau, lui donnait une raison supplémentaire de se montrer implacable avec des adversaires qu'il regardait avec horreur comme d'infâmes scélérats. Le 27 mai à 18h, son régiment attaque le jardin des Buttes-Chaumont, où les soldats commandés par leur capitaine se livrèrent à une chasse à l'homme contre les fédérés qui tenaient la position. Du 21 au 28 mai, 10 000 à 15 000 fédérés seront fusillés lors des combats dans tout Paris. Pierre Clamouse est né le 1er septembre 1830 à Saint-Affrique. Il est menuisier modeleur établi à son compte, membre de l'Internationale et communard. Marié et père de deux enfants, Pierre Clamouse faisait partie du comité de vigilance qui s'installa à la mairie du 10e arrondissement le 4 septembre 1870. En tant que délégué des 20 arrondissements, il fut un des signataires de l'affiche rouge du 6 janvier 1871. Proclamation au peuple de Paris pour dénoncer la trahison du gouvernement du 4 septembre. Elle se terminait par ces mots « Place au peuple, place à la commune ». Sous la commune de Paris, il a en charge les magasins centraux du ministère de la guerre qui se trouvaient quai d'Orsay. Arrêté le 22 mai, Pierre Clamouse fut condamné à 10 ans de réclusion.
Quelqu'un veut dire autre chose ?
Qui c'est qui lit Victorine Brochet. Ah, Victorine. Ah ouais, c'est Victorine.
C'est moi.
On lèvera le masque.
Ça va, toi.
Allez, vas-y, monte sur l'escabeau, Victorine.
La chorale si bémol et 14 demi interprète dans la rue la chanson « La Commune de Paris » de 1871, écrite par Jean-Édouard en 1971.
L'hiver 71, c'est l'hiver du chaos, l'hiver de la défaite devant les Cruscaux. L'hiver de la souffrance, c'est l'hiver de la faim. L'hiver des collabos et des faux républicains. Il commence à fleurir les pancartes des canards. Et dans la rue, bientôt, le cri du peuple éclate. Versaillais, Versaillais, vous avez fusillé le cœur d'une révolution. Vous l'avez jeté en prison. Mais il reste à Paris l'esprit des insurgés. Mais il reste à Paris, l'esprit des insurgés. Un beau matin, Paris entre en insurrection. Et Paris doit lutter contre la réaction. Étudiants, ouvriers, armés, vos chasse-pots. Du haut des barricades, agitez vos drapeaux. Agitez vos drapeaux, les Versaillais canonnent. Agitez un mouchoir, rouge du sang d'un homme. Mais il reste à Paris l'esprit des insurgés. Avec la cruauté d'une bête sauvage, Thiérard sur la commune en un rouge carnage. Derrière les ombres et les croix d'insurgés, à 10 contre 200 les révolutionnaires, les derniers fédérés contre un mur sont tombés. Le murmure en gamot, le mot fraternité. Mais il reste à Paris l'esprit des insurgés. Versaillais, Versaillais, vous avez fusillé le cœur d'une révolution. Vous l'avez jeté en prison. Mais il reste à Paris l'esprit des insurgés. Mais il reste à Paris l'esprit des insurgés.
Il y a 150 ans, la Commune de Paris de 1871 sur Dissonance.
Ouais. Donc Victorine Brochet. L'histoire retient surtout le nom de Louise Michel quand il s'agit d'évoquer le rôle des femmes dans la Commune. Il y en eut tellement qui ont combattu à leur manière. Mais à la différence de Louise Michel, leurs noms ont été oubliés. Oubliés le rôle de ces nombreuses autres femmes qui prirent la parole dans les clubs et luttèrent pour la commune aux côtés des hommes sur les barricades. Elles étaient domestiques, repasseuses, lingères, blanchisseuses, matelassières, couturières, modistes, institutrices, faisant office d'ambulancières, de cantinières de bataillons fédérés, d'ouvrières des ateliers coopératifs et bien souvent de barricadières. À travers le personnage de Victorine Brochet et de Louise Michel, c'est à toutes les femmes de la commune que nous voulons rendre hommage. Victorine Brochet a 32 ans quand survient la commune. Elle est cantinière du bataillon Les Défenseurs de la République. Elle fut félicitée du courage qu'elle a montré en suivant le bataillon au feu et de l'humanité qu'elle a eue pour les blessés dans les journées du 29 et du 30 avril. Arrêtée et condamnée à mort pour l'incendie de la Cour des comptes, elle se cacha pendant plus d'un an, puis réussit à s'enfuir en Suisse tandis que son mari était emprisonné. Établie à Londres depuis 1886, elle fut cofondatrice et institutrice de l'École internationale dirigée par Louise Michel. En 1909, elle publia ses souvenirs sous le nom de Victorine B, narrant sa participation à la Commune de Paris.
sur Arte, il y a un documentaire qui s'appelle Les damnés de la commune. C'est fait avec des images de l'époque et avec d'après ses souvenirs à elle. Donc c'est Yolande Moreau qui fait le personnage, donc ça vaut le coup quand même.
Ah, c'est elle qui fait.
Rue Eugène Varlin, vous savez où c'est?
Lui, il était
bêta. Alors lui, il était pour le droit de voter des femmes.
Chanson de jeune fille du groupe Rue de la Commune, tirée de leur conte musical et philosophique Il faut venger Gervaise.
Voter. J'ai écouté l'autre soir Varlin parler. Il paraît que pour voter, il faut du temps pour penser, et que nous devons tous lire et apprendre à écrire, mais aussi à compter et à ne pas écouter les sœurs et le curé. Et pour cela ils réclament une journée de 8 heures de travail et pas plus. Et pour cela ils réclament une journée de 8 heures de travail et pas plus.
8 heures, nous qui en faisons 12, que ferons-nous du temps restant? Si c'est pour lire et écrire, pourquoi pas? Mais si c'est pour faire à manger, un ivrogne qu'il faudra épouser, je préfère encore aller à l'atelier.
Liberté, Madame Lemel peut bien parler. Regarde donc ses mains, elles sont déjà abîmées. Et que dire de ce dos si largement entamé? À force d'être agenouillée en position malaisée, et de forcer toujours pour si peu de deniers, et subir les sourires de quelques négriers. Éduquer la Louise a bien raison de persister. Elle défend que les femmes valent autant que ces autres, que l'humanité ne sera qu'au prix de l'égalité.
Égale. Nous, filles, femmes et mères, qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant? Nous avons toujours produit et participé. Alors pourquoi sommes-nous soumises de par les lois? Nos mains déjà meurtries ne suffisent-elles pas à prouver nos dévouements?
S'armer, c'est le meilleur conseil que la Louise nous a donné. Que la terreur les prenne jusqu'au trépas honteux. Décidons de nos vies, de nos corps et de nos combats. Faisons serment ici que plus jamais on ne sera au service des autres. Que nous, filles, femmes et mères, lutterons jusqu'à reprendre notre liberté. Que nous, filles, femmes et mères, lutterons jusqu'à reprendre notre liberté. Que nous, filles, femmes et mères, lutterons jusqu'à reprendre notre liberté.
Alors Louis Gambetta, qui a sa plaque ici, avant la Commune de 1871, est membre du gouvernement de défense nationale. On vous rappelle qu'il y avait la guerre avec la Prusse. Mais opposé à Thiers dans sa gestion de la guerre de 1870, il en démissionne et quitte la France pendant la Commune de Paris. On a des souvenirs de nos livres scolaires avec le ballon, là, il s'en va. Eugène Varlin, dont l'oubli de sa plaque est réparé aujourd'hui. Ouvrier relieur et membre de la Commune, est l'un des 25 ouvriers élus au comité central de la Commune. Le 18 mars 1871, premier jour de la Commune, il occupe, avec son bataillon, l'état-major de la garde nationale, place Vendôme, Faisant partie du comité central de la garde nationale, il est élu membre du comité de la commune, du conseil de la commune. Il fait partie de ces hommes élus qui restent discrets, refusant tout décorum. Toujours aux côtés des travailleurs, il continue à vivre très modestement, prenant ses repas à la marmite, cantine populaire dont il est un des fondateurs. Durant la semaine sanglante, il organise dès le 22 mai la résistance du quartier en quartier dans le 5e et 6e arrondissement. Le dimanche 28 mai vers midi, avec d'autres communards connus ou anonymes, il va tirer ses dernières cartouches depuis la barricade de la rue de la Fontaine-au-Roi. Épuisé, on le retrouve l'après-midi dans le 9e arrondissement où un prêtre le reconnaît. Il est traîné sur les hauteurs de Montmartre où il est fusillé. Eugène Marlin avait 31 ans. Communard, garde nationale, ce que fusillait l'armée, c'était aussi un symbole de la grande peur de la bourgeoisie, celle de l'internationalisme. Il était membre connu de l'Association internationale du travail. Cette association, créée dans le mouvement ouvrier après les révolutions de 1848, était le creuset d'un monde nouveau, celui des républicains pour qui la question sociale était essentielle pour réussir l'émancipation incomplète de 1789. C'est à lui qu'on attribue la phrase « Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'aura rien de stable dans les institutions humaines. »
Bravo. Daniel.
Suite à l'entrée massive des troupes versaillaises dans Paris, à partir du 21 mai 1871, des combats inégaux vont voir les fédérés lutter désespérément, jusqu'au massacre du Père Lachaise. Rescapé des combats et caché dans Paris, Jean-Baptiste Clément va écrire les strophes de cette semaine sanglante sur une musique de Pierre Dupont, où il décrit le climat qui règne dans Paris après la défaite des communards. Pourtant, malgré la répression qui ne cesse de s'accroître, il reste une lueur d'espoir. La semaine sanglante, interprétée ici par la compagnie Joli Mom.
Sauf des mouchards
et des gendarmes.
On ne voit plus
par les chemins.
Que des vieillards
tristes en larmes.
Des veuves, des orphelins.
Paris suinte,
la misère.
Les heures mêmes sont tremblantes.
La mode est au conseil de guerre.
Et les pavés sont tous sanglants.
Oui, mais sabrons-le dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront.
On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard.
La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur. De tous les chenapans de bouge.
Valets de rois et d'empereurs.
Oui, mais. Sabrons-le dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Nous voilà rendus aux jésuites.
Au Mac-Mahon, au Dupanloup.
Il va pleuvoir des eaux bénites.
Demain les Manon, les Lorettes et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-peaux et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants.
Oui mais,
oui mais,
sabre-le dans le manche, les mauvais jours finiront égal à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
Demain, les gens de la police,
refleuriront
sur les trottoirs,
fiers
de leurs états de service. Et le pistolet
et
en sautoir, sans pain, sans travail, sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards, des gendarmes,
des sabres peuples, des curés. Oui, mais,
oui, mais,
sabre-le dans le manche, les mauvais jours finiront égard à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront,
le peuple au collier,
le peuple
de misère,
au collier de misère,
sera-t-il donc
toujours rivé?
Jusque à quand
les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé?
Jusque
à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail?
À quand enfin
la république de la justice
et du travail?
Il y a 150 ans, la commune de Paris de 1871 sur Dissonance.
Et je vous présente Daniel Goude de Millau, dont son arrière-grand-père était membre de l'Internationale section du Panthéon. Tu enlèves le masque.
Oui. Ben, je suis venu avec un petit objet. Voilà. Bah, ça, c'est un outil de travail, c'est un instrument. Mais quand on est communard et qu'on veut défendre son quartier, sa rue, sa barricade, on n'a pas forcément un fusil, puis on ne sait pas forcément s'en servir. Alors on prend ce qu'on a sous la main. Et cette hachette qui a dormi pendant un siècle dans une cave, eh ben c'est elle... L'arme que mon arrière-grand-père portait à la ceinture pendant la Commune. Et son action pendant la Commune lui vaudra plusieurs années de bagne sur les pontons à Rochefort. Alors voilà, cette hache, c'est la première fois qu'elle sort. Je l'avais à la maison, mais je ne l'ai jamais présentée en public. Et ben, elle va nous accompagner dans cette déambulation.
Merci. Voilà, on va juste en face, là, tu vois, là.
Je m'appelle Daniel Goude et je suis arrière-petit-fils de communard. Alors, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Alexis de la Côte, il était originaire de la région d'Orbais, en Alsace, qui est une enclave française, entre guillemets. On parle français, on ne parle pas du tout alsacien. Bon, ça date des guerres de religion. Et donc, il est monté... Tout jeune à Paris. Et puis, il était dans le métron, puisqu'il a deux lignes dans le métron, le dictionnaire du mouvement ouvrier. Dans la famille, on disait qu'il était tailleur de pierre. Ils disent scieur de pierre. Bon, c'est certainement vrai. Donc il est dans le métron parce que il a été enregistré à l'Association internationale des travailleurs appartenant à la section du Panthéon à l'époque de la Commune. Voilà. Donc c'est pour ça, il y a une trace, hein, on a retrouvé sa carte d'adhérent, donc il y a une trace, c'est pour ça qu'il est répertorié dans le métron. Par ça, c'était un ouvrier vraiment tout simple. On raconte dans la famille qu'il ne savait ni lire ni écrire, mais il savait compter, ce qui lui permettait de prendre les mesures pour son métier, pour tailler les pierres. Voilà. Et donc, il habitait la rue Mouffetard, donc le 5e arrondissement, effectivement, le quartier du Panthéon. Et il a participé à la Commune. C'était, dit-on dans la famille, un grand admirateur de Louise Michel. Il allait la voir dans les clubs, il en parlait avec beaucoup d'admiration, bien que, selon ma grand-mère, c'était pas un grand féministe. Et à l'époque, les hommes étaient assez durs, hein, avec. Paraît-il qu'il était dur quand même avec sa femme. Bon. Ben, voilà. Et donc. Donc il s'est battu, ça s'est transmis dans la famille, j'ai son instrument de travail qui est une hache, il y a un côté hache et de l'autre côté un peu marteau, et c'était, paraît-il, son instrument de travail, et c'était son arme, c'était ce qu'il avait à la ceinture sur les barricades. Voilà. Et donc quand il y a eu la répression, il a eu la chance de pouvoir se cacher. Il n'a pas été pris sur le moment, sinon il était fusillé comme les autres. Donc il a réussi à se cacher pendant une semaine. On est venu là, il s'est caché dans de la famille, enfin, et finalement il est revenu chez lui et c'est là qu'ils l'ont arrêté. C'est ce qu'on raconte dans la famille, hein, tout ça. C'est comme une mémoire orale comme ça qui s'est transmise et ce qui est peut-être arrangé, je ne sais pas. On racontait en tous les cas qu'ils sont venus l'arrêter, il ne s'est pas laissé faire, ils ont été obligés de l'assommer et que l'arrière-grand-mère, elle entendait la tête de son... Ils l'ont traîné par les jambes et elle entendait la tête de son mari qui heurtait toutes les marches, une par une. Voilà. Donc il a été envoyé au bagne à Rochefort, dans la région de La Rochelle, là, pour assainir les marais. Et c'était terrible, c'était pas la Nouvelle-Calédonie. Mais c'était quand même apparemment très très dur, d'après ce qu'on pouvait en raconter. L'été, c'était les moustiques, c'était la malaria. Ils mouraient les uns après les autres. L'hiver, ils étaient logés sur des pontons, c'est-à-dire c'était des bateaux qui étaient à quai, des bateaux qui étaient réformés, qui étaient à quai. Ils avaient de l'eau jusqu'aux chevilles dans les cales. Pas de chauffage, enfin c'est l'humidité, c'est pareil. Il y en avait plein qui mouraient. Et lui, il y serait resté 3 ans et il aurait eu la chance de pouvoir en réchapper, parce que sa femme, alors elle avait une voiture de marchande de 4 saisons. Elle avait réussi à avoir une patente. Elle allait très très tôt le matin au hall. Donc elle faisait... Ça fait quand même un sacré bout de chemin en poussant la voiture remplie de légumes des halles jusqu'à la rue Mouffetard, là-haut, hein, ça, dans le 5e. Ça fait quand même un sacré bout de chemin. Donc elle partait très très tôt le matin. Elle vendait ses légumes. Après, elle travaillait comme blanchisseuse pour nourrir la famille. Et puis, de temps en temps, elle servait comme femme de ménage chez le savant Marcelin Berthelot, un grand savant, hein, qui était ami de Thiers. Et il avait pitié de cette femme qui élevait ses enfants toute seule, tout ça. Bon. Et il en a parlé à Thiers, il a intercédé en sa faveur. Et finalement, mon arrière-grand-père a eu une faveur. Il a pu... abréger sa peine et il est rentré. Et quand la grand-mère lui a avoué qu'il avait eu un régime de faveur, et il était prêt à retourner au bagne. Il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais passer pour quoi? Pour un traître? Enfin voilà. Bon, mais bon, la pauvre femme, elle voyait elle voyait son intérêt immédiat. Hein, c'était... Alors voilà, voilà les choses qui se sont transmises dans la famille. Et puis, ma mère, donc, qui parlait beaucoup avec sa grand-mère. Je me souviens que, oui, c'est ça, c'est que ma mère me disait, mais tu sais, dans la famille, on ne disait pas qu'on avait eu un grand-père communard. C'était la honte. C'était la honte. En plus, il avait été au bagne. Et elle se souvient, donc, ma mère, petite fille, à l'école. Bien sûr, la commune, c'était des criminels, c'était des l'école publique. Hein. C'était des criminels, c'était des assassins, c'était vraiment des... Elle dit, j'avais qu'une institutrice, une seule, qui, de temps en temps, laissait échapper des sympathies pour la commune. Et ma mère me disait, je me souviens, elle parlait de... presque des larmes dans les yeux. Et son institutrice parlait de Jules Vallès en disant ce doux anarchiste. Avec, non pas des larmes dans les yeux, mais des étoiles dans les yeux plutôt. Et ma mère dit, bizarrement, on ne l'a plus revue après. Est-ce qu'elle a un peu trop montré de... Voilà, rien que de dire ça déjà. Prononcer le mot d'anarchiste, c'était déjà trop.
Oui.
Libertat, mise en musique récemment par Manu Théron, chanteur de langue occitane, et la reprise d'un poème paru le 6 février 1892 dans Le Sartan, un journal marseillais en occitan, et écrit par Jean Clausel. La chanson nous plonge dans une histoire peu racontée. Ode à la liberté, le chant est associé à la commune de Marseille, qui fut réprimée le 3 avril 1871. Avec cette chanson, on fait une plongée dans des pans peu diffusés de la commune, la place des volontaires étrangers, le mouvement à Marseille et le projet fédéraliste porté par les communards, loin d'une vision localiste de Paris.
Il y a 150 ans aujourd'hui, les habitants de Paris célébraient l'installation du Conseil de la Commune de Paris. La Commune de 1871, ce sont 80 élus, mais aussi et surtout plus de 200 000 Parisiens, hommes, femmes et enfants, qui se battirent pour donner vie à leur idéal de justice et de liberté. En deux mois, du 18 mars au 21 mai 1871, en 72 jours, la commune aura pris des mesures pour que les loyers ne soient pas exigés par les propriétaires pendant trois mois, pallié au problème du chômage en remettant en exploitation les ateliers abandonnés, aboli le travail de nuit des boulangers, accordé la priorité aux associations ouvrières pour les marchés de l'État, interdit les amendes et les retenues sur salaire, supprimer le serment politique et professionnel pour toute condition d'embauche, verser des pensions aux blessés de guerre, aux veuves et aux orphelins, issus d'un mariage ou non, attribuer une pension alimentaire pour les femmes désirant se séparer de leur mari, fermer les maisons de tolérance et travailler à réinsérer les prostituées dans la vie sociale, doubler le salaire des institutrices, voter le décret séparant l'Église de l'État, travailler à la réorganisation de l'école en préconisant un enseignement rationaliste et laïque, œuvrer pour les écoles professionnelles et l'éducation des filles. Mais ce catalogue de mesures ne saurait cacher la vraie richesse de ce mouvement collectif. Un mouvement qui associe les femmes et les hommes, les sans-travail et les intellectuels, le garde national et le délégué de la commune. Un moment de fête, de création collective, de libération de la parole, celle qu'on ne demande pas mais qui se prend, au sein des clubs et sur les barricades. L'œuvre de la commune ne peut pas se lire uniquement sur les 72 jours de son existence. Elle doit s'analyser à travers le prisme de son futur. La création à venir des syndicats, des bourses du travail, le droit de vote des femmes, puis, au XXe siècle, l'apparition des mouvements collectifs horizontaux et anti-hiérarchiques un peu partout sur la planète. La commune n'est pas à copier ni à imiter, mais elle peut être une source d'inspiration pour l'avenir. Vive la commune!
Vive la commune!
Vive la commune!
Allez, Marie.
Amber et Elsa, qui forment le duo Idic, interprètent Le Temps des cerises, le célèbre poème de Jean-Baptiste Clément, mis en musique par Antoine Renard. À noter la transcription en espagnol d'une partie de la chanson.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signoles et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en goutte de sang. Il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Cuando el cerezo esté al florecer vamos a cantar con el ruiseñor y alegre sin sol. Esté al florecer, a
habrá otro horizonte. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
En 1886, le souvenir de la terrible répression de la Commune est loin d'être éteint, et le désir de revanche toujours vivace. C'est l'année où Eugène Potier va écrire « Elle n'est pas morte ». La chanson est dédiée aux survivants de la Commune, interprétée ici par le groupe « Les Amis de ta femme ». Avec des invités surprises.
On l'a tué à coup de chasse-pot, à coup de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte.
Des infos complémentaires sont disponibles sur la page internet de dissonance.ovh.
Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte.
On a bien fusillé Varlin, Flourens, Duval, Millière, Ferré, Rigaud, Tony Moilin, gavé le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horde.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas,
que la Commune n'est pas morte.
Sur le silence, achever les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inonde dans les draps, ruisselé sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte.
Policiers, marchands de calomnies, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas, ont vomi leur eau forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte.
Cette émission est à réécouter mardi 25 mai à 18h. Mercredi 26 mai à 8h et samedi 29 mai à 16h. Vous pouvez la télécharger à votre guise sur le site dissonance.ovh ainsi que sur la page internet de Radio Sainte-Afrique.
C'est arraché de la moquette qui a reçu leur tête. Alors des remords de falaise, ils en étaient tout bêtes.
Salut
et fraternité.
Bref, tout ça pour vos combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier. Et ça prouve à tous les Judas, si ça marche de la sorte, ils sentiront dans